Bonjour messieurs, dames. Bienvenue une nouvelle fois à l'espace Mendès France. Alors aujourd'hui, c'est la personne qui va vous parler, c'est Ahmed Djebbar. Ahmed Djebbar a un lourd passé, il a été enseignant, il a été ministre en Algérie, il a fait beaucoup de choses, il s'est toujours intéressé. C'est un mathématicien de formation et ensuite qui s'est intéressé d'une façon générale aux sciences arabes. Il était encore à Alger hier. Donc Ahmed Djebbar, c'est difficile de résumer toute sa carrière. C'est quelqu'un à entendre qui est passionnant, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Mais quand il parle, on a du mal à l'arrêter. C'est pourquoi je vais très vite lui passer la parole et c'est pourquoi on n'a pas laissé Anne Bonnefoy vous le présenter parce que ça prend toujours très longtemps. Donc tout de suite, je passe la parole à Ahmed qui normalement doit vous parler une heure, mais je crois qu'à moins d'une heure et demie, vous en tirerez pas. Je te passe la parole.
Merci beaucoup. Bon, il y a quand même une solution, hein, c'est que si vous voulez vraiment poser des questions, posez-les pendant l'exposé parce que je risque effectivement de traîner, je suis très bavard. Et vous m'arrêtez quand vous voulez, et puis bon, on discute, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Mon train n'est qu'à 5 heures pour venir à Paris. Je l'ai reculé quand même d'une heure, hein, par précaution. Voilà. Alors, je vais vous parler des sciences arabes. Donc déjà, il faut des définitions précises. Beaucoup de spécialistes, en particulier dans l'espace francophone, utilisent cette formulation science arabe, sachant qu'étymologiquement, ce n'est pas bon, mais c'est une convention. Vous savez, les spécialistes ont des conventions. C'est tout ce qui a été pensé, qui a été enseigné, qui a été publié, écrit, qui a été diffusé dans la langue qu'on peut considérer du début du 9e siècle jusqu'à la fin du 13e siècle comme étant la langue de la science, comme on dirait aujourd'hui l'anglais à l'échelle mondiale, c'est la langue de la science. Ça ne veut pas dire qu'elle est toute seule, ça veut dire qu'elle est dominante. Voilà, c'est un fait objectif. Et donc dans ce sens, tout ce qui va être raconté ici concerne tout ce qui a été fait, exprimé dans cette langue. Sachant pertinemment que, indépendamment de toute confession, de toute origine ethnique, de toute origine régionale, de toute culture, tout individu qui a participé à cette grande aventure scientifique qui a duré plusieurs siècles, eh bien, entre dans cette définition. Il a exprimé son savoir, son savoir-faire dans cette langue. Voilà. Si vous posez des questions... Je corrigerai après, par manque de temps, je ne dirai rien maintenant. Vous allez voir que quand même, une langue ne peut pas rester monopolistique tout le temps. Parce que ce sont des phénomènes d'évolution dans les sociétés. Et donc, il va y avoir trois langues qui vont concurrencer la langue arabe. Et ces trois langues, donc, je vous en parlerai si vous posez la question. Si je commence à en parler, je vais perdre du temps. Mais c'est quand même important. Pourquoi trois langues, pas seulement trois langues, pourquoi ces trois langues vont concurrencer la langue arabe qui était vraiment l'anglais de l'époque pendant plusieurs siècles. Et pourquoi il s'agit de deux langues qui étaient pratiquées dans l'Empire musulman, mais d'une troisième langue qui était à l'extérieur de l'Empire musulman. Ça, c'est intéressant. Alors que le phénomène est le même. D'accord ? Je vous donne les noms des langues, comme ça vous fait réfléchir. Allez, je suis gentil quand même. Hein ? Ben, là, c'est facile. C'est le persan, l'hébreu et le latin. Le persan et l'hébreu, c'est dans le cadre de l'Empire musulman. Le latin, c'est à l'extérieur de l'Empire musulman. Voilà. Alors, évidemment, comme toute tradition scientifique, c'est du moins la constatation des historiens des sciences, toute origine confondue, sauf quelques idéologues, en particulier dans des pays musulmans aujourd'hui, toute tradition scientifique naît et se développe à partir d'héritages anciens. Il n'y a que quelques idéologues excités ou très conservateurs, qui considèrent qu'une tradition scientifique peut naître comme ça spontanément, comme les générations spontanées, à partir soit d'un corpus religieux, soit du génie d'un peuple qui se réveille brutalement un jour. Vous savez, on a même parlé du génie gaulois à un moment donné, c'est au XVIIe siècle, oui, qui aurait inventé la science, etc. Et puis il y a le génie grec aussi, qui spontanément a commencé à produire la science. Ça vous souriez moins, parce que ça vous étonne. Mais aussi, ça aussi, on a construit cette idée de génie grec, qui n'a pas eu besoin des autres héritages. Jusqu'au moment où on a découvert que des Grecs ont écrit, noir sur blanc, qu'ils ont quand même hérité un savoir égyptien, un savoir mésopotamien. Mais ils l'ont dit un peu rapidement. Et donc l'idéologie aidant, l'Europe a construit une image du génie grec qui n'est pas la réalité historique. Donc vous voyez, donc ça concerne tout, hein, tous les héritages. Alors donc je vous dis tout de suite, il n'y a pas de génie arabe, il n'y a pas de génie musulman. C'est une construction humaine, une aventure humaine à partir d'héritages anciens. C'est la raison pour laquelle on parle d'héritage gréco-indien, mais comme il n'y a pas assez de place dans le titre, j'aurais dû mettre gréco, sino, mésopotamo, égypto-indien. Et même latin, mais je n'ai pas de place. Mais enfin, les deux éléments essentiels, c'est gréco-indien. Je vous dirai pourquoi, d'accord ? Et puis, il faut bien coincer une aventure scientifique humaine entre son héritage et, évidemment, le relais qui se fait. Nous n'avons pas l'expérience du relais, puisque nous sommes actuellement une civilisation mondiale dominatrice, et on ne sait pas qui va prendre le relais de la science dite occidentale. Mais l'expérience montre que les Grecs ont hérité, puis ils ont eu un relais. Qui est le relais ? Mais précisément ce que je vais raconter aujourd'hui. Les Grecs ont eu comme relais la civilisation dite arabo-musulmane. D'accord ? Ils ont eu un peu la civilisation persane, mais le grand mouvement, c'est à partir du 8e siècle. Et donc là, le relais, c'est l'Europe médiévale qui va heureusement être là au bon moment, prête au bon moment pour, et là on a un problème de terminologie, pour faire quoi ? Pour réceptionner, comme je l'ai mis ? Pour recevoir ? Pour aller chercher ce savoir qui n'existait pas en Europe ? Pour accepter le cadeau que vont leur transmettre, j'utilise encore un autre mot qui fâche. Et vous voyez que quand on fait de l'histoire des sciences, la terminologie est très importante. Parce que je n'ai pas commencé ma conférence et je n'ai parlé que des terminologies. Eh bien, ce mot réception, j'allais l'effacer, puis je n'ai pas eu le temps, j'ai été coincé par M. le Président. On allait commencer, j'allais mettre, parce qu'on peut, traficoter avec le PowerPoint, j'allais mettre les sciences arabes entre l'héritage gréco-indien et l'appropriation européenne. L'appropriation européenne. Alors, si ça vous intrigue vraiment, à la fin de ma conférence, avant le train, bien sûr, avant le TGV, je vous expliquerai pourquoi le seul mot qui convienne aujourd'hui, après un siècle de recherche sur la tradition scientifique dite arabo-musulmane et la tradition scientifique naissante européenne jusqu'à la Renaissance, le seul mot qui convienne pour faire le relais entre les deux, c'est le mot appropriation. Ce n'est ni le mot transmission, ni le mot circulation, ni le mot diffusion, ni le mot réception. Chacun de ces mots est faible et surtout, ne reflète pas la réalité historique. Reflète plutôt une attitude idéologique, consciente ou inconsciente de celui qui l'utilise, souvent inconsciente. Mais rassurez-vous, puisque c'est une attitude idéologique, c'est qu'elle a été consciente à un moment donné quand elle a été forgée. Alors si ça vous intéresse, je vous dirai qui sont. On va accuser des gens qui ont été responsables de cette construction idéologique. Derrière ce mot, il y a une construction idéologique. En fait, ce n'est pas derrière ce mot, c'est le mot « transmission ». Voilà, donc je vais commencer ma conférence, mais peut-être que déjà il y a une question. Non ? Allez, on va commencer. Alors je vais essayer d'utiliser ce gadget. C'est facile, oui, mais c'est mon cadeau de Noël, donc je ne l'ai pas encore testé beaucoup. Donc, alors, oui, on va voir. Ah, miracle, il marche. C'est génial, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au 7e, 8e siècle ? Ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas, puisqu'on m'a invité ici pour bien manger, bien boire, pour raconter uniquement ce qui s'est passé à partir du 7e. Et pourquoi à partir du 7e ? Parce que la civilisation dite arabo-musulmane va se construire à partir de la naissance et du développement et de l'élaboration d'un corpus religieux, celui de l'islam, à partir du Coran, en 60 chapitres, et des paroles du prophète ou attribuées au prophète. Bien. Et donc ça va se passer de 610 à 632. C'est ce qu'on appelle la période de prêche du prophète qui a eu la révélation. Et le prophète meurt en 632. Et donc la vraie aventure civilisationnelle commence en fait à partir de 632 parce que de 632 à 751, vous voyez, 7e, 8e siècle, il va y avoir le phénomène de conquête. Et donc là, pendant cette période, en fait, on ne peut pas parler de science au sens d'aujourd'hui. Il y a des savoir-faire, on en parlera tout à l'heure, Mais il y a la période où on va contrôler des territoires qui, à la fin de la conquête qui se situe à peu près en 751, la dernière bataille a eu lieu ici, à la frontière chinoise, la bataille de Talas. Nous sommes en présence d'un immense territoire qui va de Samarcande, grosso modo, jusqu'à Saragosse, bien, et puis qui plus tard, parce que les conquêtes vont se continuer en Méditerranée, va aller de Palerme jusqu'à Tombouctou, qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace des conquêtes. Plus tard, comme vous le savez, l'espace des musulmans va s'étendre encore plus, va s'étendre vers l'Afrique subsaharienne, ne va plus s'étendre vers le nord, va s'étendre vers la Chine, vers l'Inde, au XIe siècle, et surtout, surtout, à partir du XIe siècle, va s'étendre sur toute l'Asie insulaire. À tel point qu'aujourd'hui, la population musulmane du monde, de l'Asie insulaire, est plus importante que la population musulmane des autres régions du monde, et en particulier de la région initiale. Ça, les gens l'oublient, hein. À tel point que lorsque vous entendez à la télévision parler du monde musulman, tous les médias en Europe, et même les médias musulmans, focalisent leur discours sur uniquement l'espace connu, qui est l'espace méditerranéen, grosso modo, avec une extension iranienne. D'accord ? Mais on parle très très peu, ou presque jamais, de la partie où il y a le plus de musulmans, c'est l'islam insulaire de l'Asie. C'est-à-dire de Ceylan jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à la Malaisie, etc. etc. Et c'est un monde. Déjà cet empire, alors là on aura un empire, on l'appellera l'empire musulman, cet empire, vous voyez, c'est un empire monde. C'est le plus grand empire monde qui a été constitué. Plus grand que celui des Romains. Plus grand que celui d'Alexandre. Et surtout, surtout, aussi pérenne que celui des Romains, qui a beaucoup duré, et beaucoup plus pérenne que celui d'Alexandre, qui a été très éphémère. Bien, bien, cet empire monde, déjà c'est un empire monde, puisqu'il est sur trois continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Il va s'étendre encore plus à partir du XIe siècle. Et ce qui explique pourquoi, lorsqu'on parle de la civilisation de l'islam, il faut bien distinguer qu'il s'agit de cette partie-là, de tout ce qui s'est passé dans cette partie-là, et qu'à partir du moment où va naître un nouvel espace musulman, il faut faire son histoire d'une manière différente. On ne connaît pas très bien, d'ailleurs. Par exemple, je vais vous dire, je ne peux pas vous raconter l'histoire des activités scientifiques dans cet islam insulaire. On ne la connaît pas du tout. Elle n'est pas très importante, mais on ne la connaît pas. D'accord ? Comme d'ailleurs, on ne connaît toujours pas l'histoire des activités scientifiques dans cette Afrique subsaharienne, qui est immense, où il y a eu même des empires au nom de l'islam, des empires africains. Donc il faut rester prudent quand on parle de cet islam qui est très vaste, très, très diverse, très cosmopolite. Et c'est cette diversité, cette étendue, ce cosmopolitisme qui va marquer tout ce qui va se faire dans cet empire. Ne l'oubliez jamais, c'est un empire monde. Donc, d'où certaines innovations qui vont avoir lieu ne sont pas des innovations dues au génie de telle ou telle communauté, mais ces innovations ont été des innovations nécessaires par la nature même de cet empire monde. Je vous donne juste un petit exemple, parce que j'étais en train de travailler dans un domaine qui n'est pas ma spécialité. On m'a demandé une émission de radio, que j'ai enregistrée d'ailleurs il y a deux jours à Alger, sur l'agronomie et l'art culinaire. Ouais, c'est très loin, hein, de mes conférences. Ouais. Je peux revenir un jour vous faire une conférence sur l'agronomie et l'art culinaire musulman. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis rendu compte que parmi les innovations qui sont révolutionnaires au sens du mode de vie et qui va impliquer effectivement le changement de mode de vie, même dans les pays périphériques, c'est-à-dire en Europe, eh bien, il y a effectivement le fait que ça va se passer, les initiatives vont se passer dans un empire monde, pas dans une petite région. C'est parce que c'est un empire monde, parce que c'est un empire qui sera sans frontières, parce qu'il va libérer toutes les énergies commerciales, parce qu'il va débloquer tous les verrous qui étaient sur les routes commerciales. Alors je vais vous montrer les routes commerciales. Voilà. Toutes les routes commerciales qui sont là, pas seulement la route de la soie, on ne parle que de la route de la soie, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est évident qu'on ne peut pas faire l'histoire de l'humanité avec la route de la soie, il faut arrêter d'exagérer comme ça. On parle de la route de la soie tout le temps quand on parle des musulmans. On parle d'Avicenne quand on parle de la science, tout le temps. Tout le temps, vous vous souvenez, hein. On parle d'Averroès tout le temps quand on parle de philosophie. Mais il faut qu'on arrête après 1000 ans d'histoire, après 150 ans de recherche, il faut maintenant aller derrière l'arbre et voir s'il y a une forêt. S'il n'y a qu'un arbre, on s'arrête, on ne fait plus de conférences sur les musulmans et les arabes après tout, hein, ils nous embêtent suffisamment. Si derrière l'arbre, il y a la forêt, alors là, ça vaut la peine de faire une histoire de la forêt. L'histoire de l'arbre, elle est courte. D'accord. Et j'ai la prétention aujourd'hui, en une heure, de vous raconter un peu l'histoire de la forêt. D'accord. C'est une introduction. Hein, c'est une introduction. Et si vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, je le dis toujours, mais pas, je le dis pas toujours à la même heure, hein, ça dépend, c'est de l'opportunité. Eh bien, vous verrez la suite de mes histoires dans mes livres qui ont été publiés. Bien. Alors, je disais que, pour prendre l'exemple de l'agronomie et de l'art culinaire, parce que je n'oublie pas quand même mon idée, c'est parce que c'est un empire monde qu'il va y avoir un phénomène qui ne pouvait pas avoir lieu avec la Grèce, qui ne pouvait pas avoir lieu avec l'Europe toute seule, ni avec l'Empire romain. C'est le fait que, parce que on a fait une jonction objective entre l'espace de Saragosse, l'espace de Tombouctou, l'espace ici de Palerme et l'espace de Samarcande et de l'Inde et de la Chine, que l'on va voir par exemple un phénomène qui a été observé une seule fois à cette échelle, la migration des plantes. Or, la migration des plantes, des fleurs, des arbres, a été un phénomène, une révolution. C'est-à-dire qu'on a vu des dizaines et des dizaines d'espèces qui ont été acclimatées volontairement. Il y a eu même de l'espionnage économique où des émissaires allaient faisant semblant d'aller chercher des manuscrits quelque part ou dans des délégations politiques à Byzance. Remarquez qu'à Byzance, il y a une espèce d'olivier qui est plus résistant que les autres oliviers qui étaient au Maghreb ou bien en Espagne. Et le diplomate fait en sorte pour qu'en soudoyant tel ou tel garde, il vole une petite pousse d'olivier spéciale et il la ramène en cachette parce que l'État byzantin avait interdit que l'on exporte cette espèce d'olivier parce qu'il y avait un monopole pour l'huile. Et bien, le ramener en Espagne et développer par acclimatation dans des jardins qu'on appellera plus tard des jardins botaniques ou d'acclimatation. D'ailleurs, la tradition est née en Espagne musulmane pour effectivement étendre la culture de certaines espèces qui étaient uniquement soit dans cette région, soit ici. Et il y aura donc une... si je faisais une conférence sur ça, c'est des dizaines et des dizaines de fleurs, de plantes, de plantes à la fois évidemment alimentaires, de fruits, qui se sont déplacées, non pas par l'intelligence des hommes, parce qu'ils ont pu les acclimater, il y a ça aussi, mais parce que c'était une nécessité de l'Empire monde qui voulait consommer. Comme les gens ici consommaient des choses qui étaient luxueuses, ici ou ici, cela voulait aussi consommer ces choses luxueuses qui n'étaient produites qu'ici ou ici, alors il fallait les acclimater. Donc on a créé une nouvelle science qui est l'agronomie. Ce n'est pas l'agriculture, c'est l'agronomie. D'accord ? Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Alors, donc si vous voulez, cette première partie, c'est la phase d'installation d'un nouveau pouvoir qui va englober des sociétés très diverses, très riches, et certaines qui avaient de très vieilles civilisations. Et même celles qui n'étaient pas de très vieilles civilisations, elles avaient quand même des pratiques et un savoir-faire qui compensaient le manque de savoir savant, comme on dit, qui lui était entre les mains des Indiens, des Chinois et des Grecs, surtout.